À la une, ce midi, Paris a donc mis en place un nouveau protocole sanitaire. Les Français au Royaume-Uni peuvent revenir dans l'Hexagone, mais sous condition. Il faut un test négatif au Covid-19 de moins de 72 heures avant le départ. Les projets des vacanciers pour Noël sont pour beaucoup déjà bouleversés. Explication à suivre de Nathanaël Charbonnier.
En France, à l'approche de Noël, les files d'attente se sont reconstituées devant les laboratoires ou les pharmacies. Les dépistages sont de plus en plus nombreux, selon une étude qu'on vous détaillera. Et nous nous pencherons aussi dans ce journal sur les opérations de dépistage massif mises en place dans certaines villes, exemple au Havre.
Anthony Streicher sera notre invité. Le syndicaliste patronal a signé récemment une tribune dans le journal Le Monde. Il alerte sur la situation des 150 000 petits chefs d'entreprise en France qu'il estime laissés à l'abandon depuis le début de la crise sanitaire.
Gérald Darmanin s'est exprimé il y a quelques minutes après le meurtre de 3 gendarmes dans le Puy-de-Dôme. Nous entendrons le ministre de l'Intérieur avant de nous intéresser plus généralement aux interventions pour violences intrafamiliales, elles font partie des plus risquées pour les forces de l'ordre.
Nous ferons un détour par Israël où la situation politique est toujours plus chaotique. Pour la 4e fois en moins de 2 ans, les Israéliens vont élire leurs députés. Un détour également en Centrafrique à 5 jours des élections présidentielles et législatives. Enfin, nous reviendrons sur la libération inattendue de Jimmy Lai, le patron de presse hongkongais très critique envers Pékin. Il a été libéré sous caution. La France rouvre ses portes à partir d'aujourd'hui après avoir refusé les passagers en provenance du sol britannique à cause d'une variante très contagieuse du Covid découverte en Angleterre. Paris a donc décidé hier d'un nouveau protocole sanitaire. Les Français, les étrangers qui résident en France et les ressortissants de l'espace européen doivent respecter quelques conditions. Il faut un test PCR ou antigénique avec un résultat négatif pour pouvoir revenir dans l'Hexagone. Test qui doit être fait moins de 3 jours avant le voyage. Même si les premiers Eurostars entre Londres et Paris roulent à nouveau, la fermeture des frontières a fortement perturbé les projets des voyageurs. Conséquence, beaucoup se voient malgré tout contraints de rester au Royaume-Uni, Nathanaël Charbonnier.
Charlotte a 24 ans, elle est étudiante à Londres, travaille à Paris et comptait bien passer les fêtes en famille. Mais voilà ce qu'elle pensait impossible s'est produit. Les frontières se sont fermées.
Je me suis toujours dit que c'était quelque chose qui était impossible, que les gens n'allaient pas fermer les frontières, qu'on n'est pas dans ce monde-là. Et c'est vrai que c'était très naïf de ma part et j'étais très optimiste en fait. Je me suis retrouvée coincée. Puis une fois ça te fait, tu peux pas vraiment prendre un avion à 300 balles si ça fait pas partie du budget. Du coup, voilà, je passe Noël dans la chambre de mon copain.
Charlotte coincée à Londres, Thibault lui est bloqué 122 km plus loin à Douvres. Son épouse enceinte et son fils de 3 ans et demi sont partis d'Irlande en avion, et lui devait le rejoindre en voiture en passant par l'Angleterre.
Le premier ferry, pas de souci, puisque la liaison Irlande-Angleterre, il n'y a jamais eu de souci. Le problème, c'est que le transit n'est pas compris, quoi. Du coup, je me retrouve bloqué ici, alors que dans n'importe quel pays, si vous êtes là moins de 48 heures, il n'y a pas de problème, quoi. Sans moyen, en fait, d'avoir accès aux tests de voyage, il y a 2 sites qui sont pas loin de Douvres. Ils répondent pas et c'est tout sur rendez-vous, en fait.
Et selon Thibault, ils sont nombreux, Français, Roumains, Polonais, dans son cas, bloqués avec leur voiture à Douvres, sans aucune certitude de pouvoir passer dans les heures à venir.
Le port de Douvres a donc rouvert cette nuit pour la première fois depuis dimanche. Des véhicules ont pu débarquer sur le port de Calais. Cependant, plusieurs milliers de camions sont toujours bloqués avec la crainte de rester là, attendre son tour jusqu'à Noël. Au moins, redoutent certains routiers malgré la mise en place de tests rapides. Le Royaume-Uni qui a sur les bras un autre lourd dossier à gérer, l'accord commercial post-Brexit. Ce matin, la fédération représentant le service public de santé britannique a appelé le Premier ministre Boris Johnson a prolongé la période de transition post-Brexit. Elle craint les conséquences d'un no deal avec l'Union européenne en pleine crise sanitaire. Côté français, le secrétaire d'État aux affaires européennes assure que les négociations seront terminées avec ou sans accord d'ici le 31 décembre. On le voit encore avec le Royaume-Uni, les tests sont devenus indispensables. En France, à l'approche des fêtes de fin d'année, les files d'attente qui avaient diminué devant les laboratoires et les pharmacies se sont reformées. Beaucoup de Français souhaitent faire un test avant de retrouver leurs proches. L'Union syndicale des pharmaciens d'officine s'attend à un pic de dépistage aujourd'hui et demain. Plus de 500 000 personnes testées chaque jour. Bonjour Laurine Benjebria.
Bonjour.
Le nombre de tests bat des records, ce qui permet de mieux détecter les personnes infectées.
Oui, cet automne, juste avant le reconfinement, 60% des malades du Covid ont pu être détectés contre 1 malade sur 10 repéré à la sortie du premier déconfinement en juin, selon une étude du service service statistique des ministères sociaux, l'adresse. Une capacité de détection insuffisante selon des chercheurs de l'INSERM dans la revue scientifique Nature lundi. Ils évaluent à 90% le nombre de malades symptomatiques non détectés en mai, ce qui ne permet pas, par exemple, de connaître le véritable impact de la pandémie en France. L'adresse estime qu'au total, 6 millions de Français de plus de 15 ans ont été infectés, mais ce n'est pas le nombre réel de nouvelles contaminations. D'abord parce que les tests virologiques n'étaient pas disponibles dès le début de l'épidémie, et puis parce que seule une partie des malades se fait tester, ce que regrettent les chercheurs. Pourtant, aujourd'hui, il est plus facile de se faire dépister, pas besoin de passer par son médecin traitant. Les tests antigéniques déployés dans les pharmacies et les délais d'obtention des résultats sont raccourcis.
À cela s'ajoutent les opérations de dépistage massif lancées dans les Ardennes et en Normandie la semaine dernière. Au Havre, Laurine, la campagne n'a pas vraiment tenu ses promesses.
Oui, en 6 jours, près de 31 000 tests ont été réalisés pour 350 cas positifs. En somme, 11% de la population de l'agglomération havraise s'est fait dépister. C'est 7 fois plus que le volume de tests réalisés en temps normal sur ce territoire. Mais on est loin des objectifs affichés par le maire d'un habitant sur 2 testés. Des objectifs également revus à la baisse dans les Ardennes. L'agglomération visait 50 000 tests. Finalement, plus de 12 000 personnes ont fait le déplacement la semaine passée. C'est tout de même 4 000 tests de plus que la semaine précédente. Des tests un petit peu plus nombreux donc, avec un taux de positivité quasi stable, 8%, et des malades appelés à se confiner. Pour l'instant, seulement 5 personnes dépistées positives se sont portées volontaires pour s'isoler dans les structures réservées par la préfecture.
Laurine Benjebria, nous vous parlions hier de ce projet de loi controversé qui doit instituer un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires. La possibilité de voir certains déplacements conditionnés à la vaccination contre le Covid-19 a suscité de nombreuses réactions de l'opposition, notamment à droite, qui redoute une restriction des libertés. Le gouvernement a par la suite décidé de reculer. Ce n'est donc plus à l'ordre du jour, Rosalie Lafarge.
Il l'a dans un premier temps défendu, ce texte, Olivier Véran, avant de se raviser hier soir. Sur le plateau du 20h de TF1, le ministre de la Santé a acté le report de l'examen du projet de loi par le Parlement.
Dans le contexte que nous connaissons, parce qu'il faut de la confiance pour que les Français se fassent vacciner librement. Parce que nous sommes encore en état de crise sanitaire et parce qu'il y a un couvre-feu, le gouvernement ne proposera pas ce texte devant le Parlement avant plusieurs mois, avant d'être sorti de la crise. Nous resterons donc dans des dispositifs d'état d'urgence sanitaire tels que ceux que nous connaissons depuis maintenant 9 mois.
Donc vous le retirez pour l'instant?
Le débat est clos. Il n'est pas retiré, il n'est pas présenté au Parlement pour examen pour l'instant, pas dans les prochains mois encore une fois. Ce n'est pas le moment de faire cela.
Mais le moment viendra de penser à de nouvelles mesures pour changer le droit et nous permettre de lutter contre d'éventuelles nouvelles crises sanitaires, souligne encore le ministre. Preuve pour une partie de l'opposition que, contrairement à ce que dit Olivier Véran, le débat n'est pas clos.
En vérité, il ne renonce pas. Il ne fait que reporter.
Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France.
Ce qui m'inquiète, c'est qu'en vérité, nous sommes passés dans un état de semi-liberté et qu'il y a une dérive dans notre pays sur tous les plans et que le gouvernement n'est pas clair. Voilà. Et moi, je pense que pour rétablir la confiance dans le pays, vaincre l'épidémie, vacciner si ce vaccin s'avère efficace, tout passe par la responsabilisation des Français, c'est-à-dire la confiance. Donc, je crois que le gouvernement s'y prend une fois de plus très mal, avec beaucoup d'arrogance, de mépris, de duplicité. Et je pense que ça traduit un système politique, institutionnel, technocratique à bout de souffle.
Tout en actant le report de l'examen, voire entre les lignes l'enterrement de ce projet de loi, le ministre de la Santé dénonce une mauvaise polémique et répète que le vaccin contre ce virus ne sera pas obligatoire.
La crise sanitaire est loin d'être terminée malgré l'arrivée des vaccins et la multiplication des tests. Une crise qui a de lourdes conséquences économiques. Les petits patrons rencontrent aussi des difficultés. Avec nous, pour en parler ce midi, le syndicaliste patronal, président de l'association GSC, composée de chefs d'entreprise. Bonjour Anthony Streicher.
Bonjour à vous.
Et à mes côtés pour cette interview, Marie Viennot du service économie de France Culture. Bonjour Marie.
Bonjour.
Anthony Streicher, vous avez signé une tribune dans Le Monde au début du deuxième confinement. Dans ce texte, vous alertiez sur la situation des 150 000 petits chefs d'entreprise laissés totalement à l'abandon, selon vous, alors que le gouvernement a débloqué de nouvelles aides. Est-ce que vous réitérez ce constat aujourd'hui ?
Hélas oui, je le réitère de façon encore plus forte. Aujourd'hui, je peux saluer l'ensemble des aides économiques pour soutenir l'économie. Après, il y a le sujet de l'homme et la femme chef d'entreprise qui est derrière son ciré, derrière l'entreprise, qui aujourd'hui, je prends quelques chiffres, hein, en 2019, 140 hommes, femmes, chefs d'entreprise ont mis la clé sous la porte sans rien, tous les jours. L'estimation qu'on fait pour 2021-2022, ça va pas être 140, qui était une bonne année économique, ça va être 280, 340, 420 hommes, femmes, chefs d'entreprise qui vont mettre la clé sous la porte tous les jours à compter 2021, une fois qu'on va commencer à enlever tout ce qui est perfusion de l'État pour essayer de soutenir l'économie. Donc on a un vrai sujet qui est d'actualité, d'où ma tribune de l'époque et que je réitère encore aujourd'hui, et merci de votre proposition d'interview.
Question de Marie Viennot.
Oui, alors Monsieur Stréchard, il y a quand même eu, même si on craint beaucoup plus de faillites l'an prochain, en 2020, il y en a eu un tiers de moins qu'en 2019. Donc est-ce que c'est quand même pas la preuve que les aides de l'État atteignent leur but ?
Aujourd'hui, le premier but qui a été atteint, c'est de mettre sous perfusion l'économie. Et comme toute personne malade, quand on enlève la perfusion, il faut une autre note de la Banque de France a été récemment produite. Plus de 100 000 entreprises en France ont une trésorerie inférieure à 30 jours malgré l'ensemble des aides de l'État. Donc oui, on lève le drapeau en disant qu'aujourd'hui, la situation, il y a la crise sanitaire d'un côté et aujourd'hui la crise économique, elle est devant nous et les défaillances des entreprises est devant nous dans les mois à venir. Et que faisons-nous par rapport à ça? Donc le sujet est encore plus d'actualité. C'est un timing qui s'est décalé. Liées aux aides qui ont été mises en place pour essayer de préserver au maximum, sous perfusion, l'économie française.
Alors, Alain Griset, le ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises, dit son intention d'améliorer prochainement la couverture chômage pour les indépendants qui existe depuis un an. Est-ce que ça, cela ne peut pas répondre à l'urgence que vous évoquez pour l'an prochain ?
J'alertais déjà, hélas, il y a un an sur cette allocation, cette promesse du candidat Emmanuel Macron à l'époque d'avoir un chômage universel pour les chefs d'entreprise. L'objectif est bon, hein, on ne dit pas le contraire, on le salue. Seulement aujourd'hui, 800 euros pendant 6 mois, bah, vous faites pas grand-chose avec ça pour rebondir, pour des gens qui ont créé une entreprise qui est parfois le projet de leur vie. Première chose. Deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a déjà des solutions qui ont été créées il y a 40 ans, qui fonctionne, notamment comme l'association GSC qui a été créée par l'UDP, MEDEF et CPME, face de ce constat de dire on sait faire, il y a des choses qui existent, c'est pas la peine de recréer la roue, de réinventer l'eau chaude ou le fil à couper le beurre quand il y a déjà des solutions qui existent pérennes qui n'alourdissent pas les comptes publics.
Alors l'association justement GSC que vous présidez propose des assurances aux dirigeants d'entreprises, quelle que soit leur taille, et depuis 40 ans, vous le disiez, or seulement 1% d'entre eux souscrivent cette assurance. Pourquoi font-ils preuve de si peu de prévoyance pour eux-mêmes ?
Pour la simple raison, nous avons fait, et on le suit avec le baromètre GSC Altares, aussi des enquêtes faites avec l'IFOP ou avec des échanges dans les différents tribunaux de commerce, 6 fois sur 10, le chef d'entreprise n'est pas au courant qu'il y a des solutions, qu'il y a des choses qui existent. On est dans un défaut, dans un déficit criant, catastrophique, de défaut d'information. On pousse tout le monde à créer des entreprises. L'entrepreneuriat, c'est génial. Moi-même, je suis chef d'entreprise. C'est fantastique. C'est génial. Sauf qu'à un moment donné, le chef d'entreprise, encore faut-il lui donner la bonne information. On est sur un déficit d'information, d'aiguillage, de dire voici les solutions qui sont possibles. Sur l'allocation chômage mise en place il y a un an où j'avais déjà alerté à l'époque, quand la personne, vous rendez compte, passe par le tribunal, met la clé sous la porte, passe par le tribunal de commerce, la liquidation de son entreprise est prononcée. On ne lui indique même pas qu'il faut qu'il aille déposer un dossier à Pôle emploi pour cette allocation chômage de 800 euros pendant 6 mois. On a un déficit criant d'informations et de prendre en charge réellement, de s'occuper des hommes et femmes chefs d'entreprise qui sont derrière ces entreprises.
Et est-ce qu'il y a un plan justement pour qu'il y ait une meilleure information des chefs d'entreprise pour les préparer aux difficultés qu'ils vont rencontrer l'an prochain ?
Je salue l'intention d'Alain Griset, du ministre, et je suis à sa disposition pour lui présenter les solutions qui existent aujourd'hui, qui sont déjà là, pour voir comment on peut faire sans alourdir les charges publiques, les fonds publics, sans rendant les choses de façon plus efficace, qui existent déjà. C'est juste de remettre, passez-moi l'expression, de faire un petit peu de plomberie, de remettre les bons tuyaux aux bons endroits pour qu'il n'y ait plus de fuite d'informations et que l'ensemble des chaînes d'entreprise, qui sont la force première de la création de valeur en France, puissent avoir l'information, qu'ils peuvent s'assurer, qu'ils peuvent se protéger au cas où. Et c'est le temps, il est temps d'agir maintenant et d'arrêter, de reporter ça à demain ou d'essayer de recréer un ersatz de choses qui existent déjà.
Alors c'est quand même étonnant les constats que vous faites, parce qu'on est quand même avec un gouvernement qui loue les entrepreneurs, et Bruno Le Maire, le ministre des Finances, a dit maintes fois que c'était l'une de ses priorités de ne laisser aucun chef ou aucune chef d'entreprise, aussi petite soit-elle, sans solution. Donc ça, ce ne sont que des paroles pour le moment.
Moi, je ne crois qu'aux actes. À un moment donné, certains précisants disaient que c'est bien de dire qu'on nous aime, encore faut-il le montrer. Donc aujourd'hui, sans paraphraser certains prédécesseurs, c'est dire voilà, concrètement, on est à la disposition du ministre, monsieur Griset, de d'évoquer ces cas, de montrer des solutions simples qui existent déjà depuis 40 ans pour mettre en place, fermer les fuites qu'il y a dans le bateau, et de d'offrir quelque chose de cohérent et qui vont satisfaire à tout le monde. C'est ça le sujet, et de pas juste essayer de recréer l'eau chaude.
Merci Anthony Streicher, et merci à Marie Viennot. Anthony Streicher, vous étiez l'invité de la rédaction. Interview à réécouter d'ici quelques minutes sur franceculture.fr. J'ajoute que nous revenons régulièrement sur notre antenne sur les conséquences économiques de cette crise sanitaire. Ce matin, le reportage de la rédaction était consacré au secteur aéronautique. Reportage d'Hakim Kasmi à retrouver là aussi sur notre site. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était en route ce matin direction le Puy-de-Dôme. C'est là que 3 gendarmes ont été tués et un 4e blessé cette nuit par un forcené. Ce dernier a été retrouvé mort. Les gendarmes intervenaient à cause de violences intrafamiliales. Une femme s'était réfugiée sur le toit d'une maison. Elle a pu finalement être mise à l'abri. Une fois sur place, le ministre de l'Intérieur a réagi face à la presse. Écoutez.
J'ai évidemment une pensée toute particulière pour les 4 orphelins, pour les veuves, pour toute la gendarmerie nationale, pour toutes les forces de l'ordre qui connaissent par ce drame l'un des événements les plus tragiques de son histoire. Je voudrais aussi avoir un mot pour tous les services de l'État, les gendarmes qui sont intervenus en soutien de leurs camarades et qui, sous les feux d'un assassin, ont protégé cette femme et son enfant et l'ont mis à l'abri. Et une pensée également pour le gendarme blessé qui, courageusement, à plusieurs reprises et malgré ses blessures, a voulu accomplir sa mission. Nous leur devons donc respect.
Ces interventions pour ce type de violence intrafamiliale sont parmi les plus risquées, Anne Fauquemberg.
Oui, la gendarmerie nationale a fait part de sa douleur et de sa vive émotion, évidemment, ce matin. Vous l'avez dit, 3 hommes ont perdu la vie. Arnaud Mavel, Cyril Morel et Rémi Dupuis, âgés de 21 à 45 ans. Un 4e gendarme est aussi blessé à la cuisse. Le général Bitouzé, qui dirige le CIRPA gendarmerie, le service d'information et de communication des militaires, était évidemment très touché personnellement tout à l'heure, mais il rappelle qu'il n'y a pas d'intervention anodine en gendarmerie.
On n'est pas surpris au sens où cette violence, une violence, on la rencontre très régulièrement dans nos interventions. Le nombre d'agressions et de gendarmes blessés augmente ces dernières années. Il y a des refus d'obtempérer plus réguliers, c'est un toutes les 45 minutes. Lors de nos interventions sur des violences intrafamiliales, oui, nous pouvons tomber sur ce genre de situation. Il est très difficile d'anticiper, de déterminer quelle situation va se retrouver dans une situation d'agressivité ou va dégénérer.
Le général cite également les conflits de voisinage ou encore les accidents de la circulation, des situations qui peuvent également générer des déchaînements de violence. En ce qui concerne les violences intrafamiliales, les gendarmes gardent aussi en tête le drame de 2012. 2 femmes gendarmes, Alicia Champlon et Audrey Berthaud, avaient été abattues à Colobrière dans le Var lors d'une intervention. L'auteur des faits a depuis été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.
Anne Fauquemberg en direct pour France Culture. Midi passé de 49 minutes, le journal de France Culture se poursuit. On se penche maintenant sur la situation politique en Israël. Pour la 4e fois, en moins de 2 ans, les Israéliens vont élire leurs députés le 23 mars prochain. Dans ce pays où il n'y a aucune majorité claire, le Parlement n'a pas pu voter de budget et a été automatiquement dissous hier soir. La faute à la rivalité entre le Premier ministre de droite, Benjamin Netanyahou, et son ministre centriste de la Défense, Benny Gantz. La situation politique apparaît toujours plus chaotique et Netanyahou, surnommé Bibi, est une fois de plus au centre des débats. Explication de notre correspondant dans la région, Frédéric Mettezo.
Plus de 14 ans déjà passés au pouvoir, un procès pour corruption en février prochain et des milliers de manifestants en bas de chez lui tous les samedis depuis 6 mois. En Israël, on vote pour ou contre Bibi. Ce clivage a dépassé les rivalités droite-gauche, juifs-arabes ou laïcs religieux. Tous les rivaux de Netanyahou pour les prochaines élections ont été ses ministres. Il les a charmés, convaincus, utilisés, dupés et parfois renvoyés. Lui les méprise, eux le détestent. Dernière rupture en date, son ministre de l'Éducation puis de l'Intérieur Gideon Saar. Il quitte le Likoud pour fonder un nouveau parti de droite nationale. Il rejoint du côté des fâchés le nationaliste laïque Lieberman, le nationaliste religieux Bennett ou le centriste de gauche Lapid. Benny Gantz du centre-droit est totalement discrédité. La campagne sera dure alors que la troisième vague de coronavirus touche le pays qui réfléchit à de nouvelles mesures de confinement.
À 5 jours des élections présidentielles et législatives, la situation continue à se tendre en Centrafrique. Hier, la 4e ville du pays, Bambari, au nord-est de la capitale Bangui, est tombée aux mains des rebelles armés. Ce matin, l'ONU affirme que cette ville est désormais sous contrôle des casques bleus, Claude Guibal.
Depuis des jours déjà, la Centrafrique se tend comme la répétition d'un cauchemar, celui qui en 2013 avait fait basculer le pays dans l'horreur de la guerre civile. Avec ses groupes armés fusionnés en fin de semaine dernière pour coordonner leurs actions, hier, c'est Bambari, à 380 km au nord-est de Bangui, qui est tombé aux mains d'un de ces groupes. Ailleurs, ce sont les axes routiers qui sont bloqués pour isoler Bangui, stopper l'approvisionnement. Les groupes armés sont entrés en action après l'invalidation à la candidature de l'élection de dimanche de François Bozizé, l'ancien président renversé en 2013. C'est la Cour institutionnelle qui a invalidé sa candidature en estimant qu'il était lié à ces groupes armés responsables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Les autorités de Bangui ont accusé François Bozizé de fomenter un coup d'État. François Bozizé dément, lui qui depuis des mois prépare le terrain pour une reconquête du pouvoir en rencontrant les dirigeants des pays voisins, en passant des alliances avec des groupes armés dans les régions où son clan n'est pas majoritaire. L'actuel président centrafricain Faustin Archange Touadéra n'a lui pas l'intention de céder ce pouvoir, fort du soutien du Rwanda dont les troupes constituent l'essentiel des casques bleus mobilisés en Centrafrique. Faustin Archange Touadéra s'appuie également sur la Russie, avec qui la Centrafrique a passé des accords et qui vient d'envoyer un renfort de 300 instructeurs militaires, selon l'expression consacrée. Moscou, la carte jouée par les actuelles autorités centrafricaines pour remplacer le soutien de Paris pour que la Centrafrique restait un pivot et un symbole de son influence en Afrique centrale.
Claude Guibal. Jimmy Lai vient d'être remis en liberté sous caution. Une libération inattendue, assortie tout de même de conditions très strictes. Le patron de presse hongkongais pro-démocratie est très critique à l'encontre de Pékin. Il est accusé de collusion avec des puissances étrangères pour avoir appelé des gouvernements étrangers à sanctionner Hong Kong et la Chine en réponse à la politique menée par Pékin dans le territoire semi-autonome. Florence de Changy.
C'est contre son passeport et une caution de 10 millions de dollars hongkongais, soit un peu plus d'un million d'euros, que le juge de la haute cour, Alex Lee, a autorisé Jimmy Lai à être libéré. Jimmy Lai ne pourra toutefois pas s'exprimer publiquement, ni utiliser les médias sociaux. Il sera assigné à résidence chez lui, sauf pour se présenter à la police 3 fois par semaine, et ce, normalement, jusqu'à la date de son procès, prévu en avril. La décision est d'autant plus surprenante que les tribunaux de Hong Kong ont refusé la liberté provisoire à Jimmy Lai à 2 reprises récemment, y compris alors qu'il était inculpé pour fraude, une charge qui avait semblé avoir été mise au point sur mesure pour mettre Jimmy Lai en prison, en attendant qu'une inculpation plus lourde de collusion avec des pouvoirs étrangers sous la nouvelle loi de sécurité nationale ne soit prête, ce qui fut le cas le 11 décembre. Autre raison d'être surpris, le juge qui a rendu cette décision fait partie des juges choisis par la chef de l'exécutif Carrie Lam pour suivre l'application de la loi de sécurité nationale. Dès lors, on s'attendait à ce qu'il confirme le refus de libération sous caution. Mais n'en déplaise au gouvernement et à Pékin, Jimmy Lai est à nouveau un homme libre, au moins provisoirement.
La correspondance de Florence de Changy. On vient de l'apprendre, la chanteuse israélienne Rika Zaraï est morte, née en 1938 à Jérusalem. L'artiste avait 82 ans. Elle est notamment connue pour ce tube « Sans chemise, sans pantalon ».
Vous me permettrez sans façon de vous présenter ma chanson « Sans chemise, sans pantalon ».
Rika Zaraï, qui avait réalisé une grande partie de sa carrière en France grâce à Eddie Barclay, notamment une rencontre qui fut décisive. Elle avait aussi fait la première partie de Jacques Brel à l'Olympia. Rika Zaraï, qui avait été inculpée il y a 30 ans pour complicité illégale de l'exercice de la médecine. Elle avait fait la promotion, était accusée d'avoir fait la promotion de remèdes à base de plantes pour soigner notamment des maladies graves. Après les fortes pluies de cette nuit, le département du Finistère a été placé en vigilance orange par Météo France pour des risques de crues. De la pluie est encore attendue toute l'après-midi sur la plupart de la France. Quelques éclaircies quand même sur la façade nord-ouest. Les températures sont encore très douces cet après-midi. 9 degrés à Brest, 13 à Lille, La Rochelle et Metz, 15 degrés à Nice et 16 à Ajaccio. C'est la fin de ce journal. Il a été préparé avec Nicolas Paumet.